Sexe Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Pomme.
Être ou ne pas en être une.
Bien que les religions et les mythologies de toutes sortes soient des œuvres de fiction, elles impactent durablement non pas seulement les imaginaires des hominines, mais aussi leur comportement, car elles sont, par essence, productrices de normes sociales et morales. Lorsqu'elles n'en sont pas les sources, elles en sont les légitimations. Tout autant constitutives de réalité que véritables réalicides pour les hominines qui y croient et ou les subissent. L'amour divin a bien souvent des allures de parc à bestiaux et d'abattoirs à ciel ouvert. Dans les trois monothéismes qui naissent au sud de la Méditerranée et se développent à travers le monde au cours des millénaires, il y a la croyance naïve d'une divinité suprême qui crée toute chose. Elle est seule et incréée, bien qu'existante, et son monde est un chaos infini, un grand tohu-bohu. De l'hébreu ancien, de tohu, vide, néant, désert, solitude, et bohu, vide. Probablement par ennui de vivre dans la solitude, cette divinité se forge un univers tangible peuplé d'êtres vivants, entièrement soumis à son bon vouloir. Apparaissent les végétaux et les animaux. Elle instaure que l'hominine est l'animal auquel les autres doivent obéir. Unique de son espèce, l'hominine se nomme Adam. Né trop tôt pour connaître les antidépresseurs, il ne peut pas rester seul sans prendre le risque de se perdre dans ses pensées. Alors, Ève est créée pour lui tenir compagnie. Trop égocentrique, Adam ne comble pas la curiosité d'Ève. En freignant l'interdiction dictée par la divinité, elle propose à Adam de manger avec elle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent lui a dit que ce serait une bonne chose. Plutôt que de manger ce serpent pour le faire taire définitivement, les deux hominines décident de passer à l'acte. En colère, pour cette désobéissance, l'entité divine chasse ces hominines de leur paradis, où la nourriture ne manque pas, et les condamne à vivre durement du travail de la terre, ainsi que toute leur descendance. Dieu est très très exigeant en amour. Selon ce scénario mythologique, cet épisode marque le début de la réalité historique des hominines et de leur civilisation.
La traduction en latin des textes moïsiens et chrétiens sur cette préhistoire mythologique, écrit en hébreu, en araméen, en grec, présente quelques difficultés. Quel est donc le fruit de cet arbre dit de la connaissance du bien et du mal? Les avis divergent, et parfois il est dit qu'il s'agit d'une figue, d'une poire, d'une grenade ou d'une grappe de raisin. Tout se joue autour de la traduction du mot « malum ». Le latin tardif ne fait plus la distinction entre les voyelles longues et courtes. Ainsi, il y a confusion entre « malum » et malum. Le premier, emprunté au grec parlé dans le sud de la péninsule, italique désigne des fruits arrondis, alors que le second est d'origine latine avec le sens de mal ou mauvais. L'un se retrouve en français dans melon ou camomille, et l'autre dans tous les dérivés à partir de la racine mal, comme par exemple malheur, maladie ou malhonnête. En latin, poma désigne les fruits à noyaux ou à pépins. La datation du glissement de sens entre malhomme et pomme n'est pas établie, mais il intervient dans le contexte des pratiques linguistiques qui se rattachent au latin du nord de l'Empire romain. Cette possibilité de jeu de mots, malum, maalum, ne fonctionne pas dans les langues d'écriture des plus anciens textes de cette mythologie. D'après les traductions du mot français « pomme » dans les différentes langues latines d'Europe, il semble que celle du Nord adopte des dérivés de « poma », alors que les autres conservent des dérivés de « malum ». Par exemple, le normand « poum » et l'occitan « poma » ou l'italien et le corse « mela ». Dans l'espace germanique, l'étymon n'est pas le même et donne « apfel » en allemand et « apple » en anglais. Une racine qui se retrouve aussi dans les langues slaves. Abluko, qui a le sens pomme. Le latin abellana désigne une noisette, un fruit à noyau et de forme arrondie. Vestige de cette racine latine, le dictionnaire de l'Académie française rapporte qu'une aveline est une variété de grosses noisettes, et l'avelinier est l'abrisseau qui les porte. Au XIe siècle après leur Messie, les récits légendaires chrétiens autour du roi Arthur et de sa quête du Graal conservent le sens de pomme, de l'étymon commun aux langues germaniques, celtiques ou italiques. L'île d'Avalon, où le roi Arthur part en convalescence et où son épée magique Excalibur est forgée, est désignée comme l'île aux pommes. Merlin, le magicien, enseigne sous un pommier.
Pendant des siècles, les représentations artistiques de ce fruit défendu oscillent entre raisins, pommes et vignes, et il est à noter que Adam et Ève ont généralement une feuille de vigne pour cacher leur sexe. Les pratiques linguistiques francophones les plus anciennes utilisent « pomme » ou « pume » pour désigner le fruit du pommier. Le sens générique de « fruit » est encore présent en français moderne dans « pomologie », qui est la science des fruits, ou dans l'élocution « pomme de pin », « pomme de terre » ou le désuet « pomme d'amour » qui désigne la tomate. L'aspect arrondi est attesté dans l'élocution « pomme d'arrosoir » ou de douche, dans le pommeau d'une canne ou d'une épée. Les symboliques et ou les conséquences parmi les sociétés christiennes de ce mythe fondateur sont de trois ordres. Spéciste, sexiste et pommiste. Cette hiérarchisation dicte que les hominines sont une espèce qui règne sur les autres, que l'élément femelle de ce duo primordial est responsable de l'expulsion du paradis, et que la pomme est le symbole absolu du malheur des hominines. Au cours des siècles, des hominines femelles ont fait entendre leur voix pour protester contre le symbole et les conséquences d'un tel imaginaire misogyne. La critique antispéciste s'en nourrit. Mais les seules à ne pas être entendues sont les premières concernées, les pommes elles-mêmes. Culpabilisées à l'extrême, elles se désespèrent. Extrait d'une interview exclusive protivophile de l'une d'elles, rendue publique en 2022.
Réhabilitation.
Même si cela est très, 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 très marginal et donc mentionné nulle part, la protivophilie révèle l'existence d'une approche dite abelliste ou abolitionniste. À ne pas confondre avec apelliste ou abolitionniste, deux autres pans de la critique sociale radicale. L'idée est de faire connaître le sort fait aux pommes, à toutes les pommes. Leur principal porte-parole est le charismatique Jean-Claude Van Damme qui ose, en 2003, annoncer publiquement que « Moi, Adam et Ève, j'y crois plus, tu vois. Parce que je suis pas un idiot. La pomme, ça peut pas être mauvais. C'est plein de pectine. » La lutte est lancée. Et elle sera longue. Il faut en finir avec les blagues déplacées, les allusions sulfureuses et les insultes permanentes. Halte à la calomnie et au dénigrement. Guillaume Tell n'est qu'un infâme pourfendeur de pommes et Isaac Newton s'accapare honteusement les travaux qui concluent à l'existence de la gravité terrestre. L'un transperce avec ses flèches, l'autre regarde une pomme tomber. Par humilité et délicatesse d'esprit, JCVD n'admet jamais qu'il est en quelque sorte dans la continuité de l'œuvre du beatboxer Ludwig von Beethoven et son fameux « pam 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 » qui ouvre sa cinquième symphonie. Une écriture abelliste de l'histoire des hominines est encore à faire. Il faut faire savoir que Blanche-Neige n'existe pas et que la pomme de l'histoire n'est en rien responsable de l'empoisonnement d'une jeune hominine femelle en cavale. Tout ceci n'est qu'une fiction. Malgré la gravité de l'accusation, le recours à des rhétoriques fallacieuses est totalement proscrit. Inutile d'accuser l'eau pour espérer amoindrir sa propre peine, elle qui a noyé la presque totalité des hominines et des êtres vivants sur ordre de la divinité dans l'épisode du déluge. L'eau n'y est pour rien.
La partie de l'anatomie des hominines mâles, placée sous la gorge et appelée pomme d'Adam, n'a donc rien à voir, ni avec une pomme, ni avec Adam. Et inversement. Que cette partie s'appelle ainsi n'est pas une preuve scientifique de l'existence d'Adam et l'histoire de sa pomme maudite. Elle est l'autre nom symbolique de la proéminence laryngée du cartilage thyroïde. La bosse présente au niveau du larynx est plus visible chez les hominines mâles que chez les femelles. Elle est présente chez l'ensemble des mammifères. Elle se compose de cartilage et sert à protéger les cordes vocales, le larynx ainsi que la glande thyroïde. Elle n'a jamais été un bout de pomme coincé dans la gorge. Anatomiquement, la pomme est aussi la tête, le crâne ou le visage. De manière figurée, « pour ma pomme » signifie « pour soi ». Paradoxalement, pour les hominines, être une pomme n'est pas enviable, synonyme de crétinisme léger ou de naïveté. La dialectique et la dimension dépréciative sont les mêmes qu'avec poire et être une poire. Pour celles qui n'en ont jamais vu, côte à côte, l'hominine de petite taille fait, selon l'expression consacrée, environ 3 pommes de haut. La mesure est indicative, car cela dépend du type de pomme choisie. Du point de vue de la botanique, la pomme est un faux fruit. Au sens strict, un fruit est la transformation à partir d'une pistil d'une fleur. La pomme est une induvie, une partie accessoire de la fleur qui se développe après la fécondation et enveloppe un ou plusieurs fruits ou graines. Dans son cas, le fruit véritable est le cœur de la pomme, qui contient les graines. Par exemple, la fraise n'est pas le fruit. Celui-ci est la petite graine jaune parsemée sur toute la partie charnue. Toutes les induvies des fleurs n'apportent pas un intérêt nutritif ou gustatif. Cette façon particulière de la pomme de maintenir ses graines dans un petit sac entouré d'une large zone pulpeuse est appelée pyridon, du grec petit sac, une particularité du pommier qui se retrouve dans l'aubépine, le cognassier, le poirier, le néflier et quelques autres. Le niveau de parenté entre les pommiers et les hominines n'est pas aisé à déterminer avec précision. Il y a un lien plus étroit entre animaux et champignons qu'avec les végétaux. Ces trois catégories appartiennent aux eucaryotes, qui constituent l'un des trois règnes du vivant à côté des bactéries et des archées. Ils proviennent tous de Luca, qui est le plus récent organisme dont sont issues toutes les espèces vivantes actuellement sur Terre. Luca est l'acronyme de l'anglais « Last Universal Common Ancestor », dernier ancêtre commun universel. À quelques milliers de millénaires près, Luca fête son 4,2 milliardième d'anniversaire. Instable et en évolution permanente, elle est une macédoine génétique qui engendre de la diversité et aboutit, entre autres, aux différents légumes de la salade niçoise, au diable de Tasmanie et à F. Merjanov.
Originaire d'Asie centrale, le pommier est attesté autour de 50 millions d'années avant le présent. Il peut mesurer quelques dizaines de mètres et vivre plusieurs centaines d'années. Les botanistes désignent sous le nom de Malus la vaste famille des pommiers. La dissémination du pommier hors de l'Asie centrale est généralement expliquée par la consommation du fruit par des ours, qui consomment les plus juteux et les plus sucrés, et de fait, répandent les graines via leur déjection. La diversité naît de ce processus de sélection. L'ère d'extension de ces antiques pommiers va de la Chine à l'Égypte en passant par l'Europe. La plus ancienne preuve d'utilisation de pommiers sauvages en Europe date de 4 millénaires. De petites pommes cueillies de l'espèce Malus sylvestrus, pommier des bois, ont été retrouvées coupées et séchées sur un site néolithique du Jura. Des recherches génétiques récentes ont montré que le pommier domestique, Malus domestica, est issu de l'espèce centrasiatique Malus sylvestris, et non de Malus sylvestris. Durant des siècles, les hominines sélectionnent les graines et utilisent le système de greffe pour créer une multitude de variétés qui correspondent à leurs besoins. Consommation crue ou cuite, en alcool et décorative. Sur le pourtour méditerranéen, la culture du pommier domestique et des greffes est déjà connue par les civilisations antiques, pharaoniques et helléniques. Dans cette dernière, la nymphe Pomone, divinité des arbres fruitiers et des jardins cultivés, est souvent représentée avec une pomme à la main.
De la beauté, une fleur en aurait-elle par hasard? Un fruit aurait-il par hasard de la beauté? Que non, ils ont couleur et forme, et existence, rien de plus. La beauté est le nom de quelque chose qui n'existe pas, que je donne aux choses en échange du plaisir qu'elles me donnent. Elle ne signifie rien. Alors, pourquoi est-ce que je dis des choses? Elles sont belles. Alberto Cairo, 26, le gardeur de troupeau.
Alors que ces pommes sont petites et âpres, le Malus sylvestris est occasionnellement utilisé pour être le porte-greffe de variétés domestiques. Le pommier domestique se caractérise entre autres par sa petite taille, d'où le nom de Malus pumila, du latin pumilus, nain, qui lui est parfois donné. Depuis le XVIe siècle en Europe, les deux variétés de pommiers domestiques qui servent souvent de porte-greffe sont le pommier d'Oussin et le pommier de Paradis. Le premier, de plus grande taille, se nomme ainsi d'après un dérivé du mot douce. Le second tient son nom du botaniste Leonard Fuchs, qui en 1542 publie « Commentaires remarquables à propos de l'histoire des plantes », où il précise que « les poèmes latins nous apprennent que la pomme dans laquelle Ève et Adam mordirent avec tant de convoitise appartenait précisément à cette variété, d'où vient qu'ensuite on lui donna le nom du lieu alors habité par eux, le paradis terrestre ». La structure génétique de la pomme fait que des semis réalisés à partir de graines d'une même pomme ne donnent pas nécessairement la même variété. Pour ce faire, il est donc préférable de réaliser des greffons. De nos jours, il existe un peu plus de 20 000 variétés de pommes créées par les hominines. D'après une étude génétique réalisée par l'INRAE, des relations de parenté impliquant plus de 800 variétés ont été identifiées à l'aide de données de marquage moléculaire dense, obtenues sur plus de 1400 variétés anciennes ou locales de pommiers. L'arbre généalogique reconstitué couvre 7 générations. Il met en lumière la contribution très importante et inattendue de deux variétés normandes et anglaises datant de la Renaissance, Rainette Franche et Margile, ainsi que celle de la variété russe Alexander datant du XVIIIe siècle. Selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, la production mondiale s'élève en 2022 à environ 100 millions de tonnes, toutes variétés confondues. La Chine représente près de la moitié de cette production. En 2024, la France a produit un peu moins de 1500 tonnes. Les variétés les plus produites sont, par ordre décroissant, la Golden, la Gala, la Pink Lady et la Granny.
Artistique. La pomme est présente dans des nombreuses expressions artistiques élaborées par les hominines, que ce soit dans une recette de compote ou de tarte. Cette dernière est d'ailleurs synonyme de l'usage dépréciatif de pomme dans le sens de naïveté, de douce bêtise. Dans les faits, être tarte est un peu être une bonne pomme, même s'il est possible de faire des tartes avec une multitude d'autres fruits. La pomme vient nourrir la liste des fruits et légumes servant aux hominines à s'insulter ou à se rabaisser. Le navet, la poire, la courge, la banane, la carotte ou le faillot, pour quelques exemples. En plus de servir à en faire des jus, le fruit du pommier est aussi un ingrédient dans la fabrication d'alcools divers. En France, les plus connus sont les cidres obtenus par fermentation et les calvados, qui sont des eaux de vie issues de distillation. Bien au-delà de la question de l'impact de la consommation d'alcool sur la création artistique, la pomme inspire. Dans l'univers des chansons de l'espace francophone, les deux plus notables sont la comptine enfantine « Pomme de Rainette et Pomme d'Api » et le tube de la fin des années 50 de Sacha Distel intitulé « Scooby-Doo ».
Il existe plusieurs versions de la comptine et ses origines ne sont pas clairement identifiées. Contrairement à la version moderne, chantée par les enfants, le folkloriste Adolphe Aurin recense en 1897, en Ille-et-Vilaine, une version dans laquelle elle avait un début différent et constituait une véritable histoire. Celle d'une vendeuse de fruits qui s'installe à Paris et y vend des pommes de rainette et d'api. Les origines de ces noms de pommes font débat. L'appellation rainette est mentionnée pour la première fois dans la première moitié du XVIe siècle. Elle désigne une variété de pommes apparue en Normandie au début de ce siècle. Son orthographe est rainette, R-A-I, rainette, R-A-Y ou rainette, R-E-I. Dans les origines de la langue françoise de 1650, la raison d'un tel nom questionne. Peut-être que Regineta, comme qui dirait la reine des pommes, ou plutôt que reine, qui signifie grenouille et qui a été fait de rana, car ce fruit est marqué de petites taches comme le ventre des grenouilles. Dans le boulonnois, boulonnais, on dit encore à présent reine pour une grenouille. Cette signification se retrouve dans une ballade de Villon. Le mot rainette dérive du latin rana, qui a le sens de grenouille, et l'emploi de reine, qui est confirmé par les dictionnaires historiques du XVIIIe siècle. Même questionnement sur l'étymologie de la pomme d'api. Dans la troisième édition de l'abrégé des bons fruits, avec la manière des conoastres et de cultiver les arbres paru en 1690, Jean Merlet précise qu'elle est une pomme sauvage qui s'est trouvée dans la forêt d'Api, en Bretagne, sans plus de précision sur la localisation de cette forêt qui n'existe plus sous ce nom. Il indique que cette variété se retrouve aussi en Normandie et qu'elle est des meilleures à faire cidre aussi bien qu'à manger cru. Si on se fie à ces quelques précisions, il est envisageable que la chansonnette soit originaire de l'ouest de la France. Impossible de trancher sur ces hypothétiques étymologies. La comptine enfantine pomme de rainette et pomme d'api s'en passe très bien pour exister en tant que telle. Tout comme l'absence de mention de la vendeuse de fruits n'empêche en rien la transmission orale de cette chansonnette. Une fin a même été ajoutée pour servir de base à un jeu de mains. Par glissement phonologique, la comptine a évolué. D'api d'api rouge et d'api d'api gris sont parfois tapis. Si les variantes conservent encore le cœur de cette chansonnette, consacrée aux pommes, comme la québécoise pomme d'arinette et pomme d'api, d'autres versent dans l'absence de sens pour seulement conserver la sonorité rythmique. Pompe arinette et pompe d'api ne veulent rien dire. A peddler once was a passing by. His cart with fruit was laden high. And as he drove along, he cried across the village green, crying apples, peaches and cherries, crying apples, peaches and cherries. His daughter sat beside him there. And she was young as she was fair, all glowing with a beauty rare, made of sweet 16. Oh, apples, peaches and cherries, crying apples, peaches and cherries. Young lad beckoned from the door. He bought some fruit and then bought more. His longing eyes were begging for the lovely maid to stay. Crying apples, peaches and cherries. Apples, peaches, cherries. The young lad beckoned from the door. He bought some fruit and then bought more. His longing eyes were begging for the lovely maid to stay. Crying apples, peaches and cherries. Apples, peaches, cherries. Sought and found her in the mart. He wooed and won the maiden's heart. And now 10 children ride the cart, and there'll be many more. Crying apples, peaches and cherries. Now if there is
is a morrow here. Such fruitfulness will make it clear. So shut your window when you hear a peddler at your door crying apples, peaches and cherries. Apples, peaches and cherries.
Beaucoup plus contemporaine, la chanson de Sacha Distel est une adaptation en français de Apples, Peaches and Cherries, Pommes, Pêches et Cerises, chantée en 1954 par Peggy Lee et composée par le poète Abel Miropol. Ce dernier est l'auteur de la célèbre chanson anti-esclavagiste Strange Fruits, Fruits étranges, interprétée en 1939 par Billie Holiday. Les fruits symbolisent ici les corps des hominines qui se font pendre au seul motif d'avoir la peau noire. Il ne faut pas faire dans la controverse facile. Abel Miropol n'est pas un horrible détracteur des pommes. Que ce soit dans Apple, Peaches and Cherries ou dans son adaptation en 1959 par le parolier Maurice Thézée en Scooby-Doo, il est question de fruits et de Scooby-Doo. Dans les deux cas, la chute de la chanson prend la forme d'une recommandation à l'auditoire. Il est plus question de fantaisie que de morale. Le texte états-unien narre l'histoire d'un hominine mâle qui s'amourache de la jeune et charmante fille du marchand de fruits qui passe sous ses fenêtres et avec qui il a finalement 10 enfants. Il est donc conseillé de prendre garde au marchand qui crie « pommes, pêches et cerises ». La version chantée par Sacha Distel en conserve l'idée générale. Elle raconte la rencontre amoureuse entre un jeune hominine mâle et une femelle. Elle est vendeuse de fruits et s'installe rapidement chez sa moitié mâle, à qui elle ne veut faire manger que des pommes et des poires à la place des repas. Moralité, célibataire, mieux vaut rester plutôt que de croquer. Sous-entendu, la pomme. L'expression « croquer la pomme » a une dimension sentimentale et ou sexuelle. Elle reprend le sens des mythologies grecques antiques, où Dionysos crée la pomme pour l'offrir à Aphrodite, sa maîtresse et déesse de l'amour. Le mot « Scooby-Doo » est inventé pour la version française afin de remplacer Scooby-Doo, Biscoudou, une onomatopée rythmique qui ne veut rien dire, comme Shabada Bada.
La rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des scooby-dooby-oo. Ah, pommes, pommes, poires, poires et des scooby-dooby-oo. Ah, scooby-dooby-oo. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa. Et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires, des scooby-dooby-oo.
Les chanteurs, dès qu'ils la bouclent, on les oublie. L'oreille est un conduit, rien n'y séjourne. Sans Antonio, faut être logique.
Le sort fait à la pomme dans l'art est difficilement envisageable pour qui ne l'a pas vécu. Deux exemples suffisent à résumer. Dans l'un, elle est au cœur de l'histoire, le personnage principal qui aide les hominines. Dans l'autre, elle est totalement absente, alors qu'elle avait toute sa place. En 2004, le documentariste danois Anders Thomas Jensen réalise Adam's Apple, littéralement les pommes d'Adam. Il suit la folle vie d'Adam, un néo-nazi condamné pour un délit mineur et envoyé dans un centre de réinsertion pour ex-prisonniers tenu par un pasteur christien, Ivan. Celui-ci vit avec son enfant lourdement handicapé et accueille déjà 3 autres hominines. Khalid, un immigré qui braque seulement des stations-service, Gunnar, un ex-champion de tennis condamné pour viol, et Sarah, une ancienne alcoolique. Le projet de réinsertion d'Adam est de veiller sur les pommiers, attendre que les pommes mûrissent, puis de faire un gâteau avec. D'une ironie à se fendre la pomme, à rigoler avec l'absurde.
Je veux que tu trouves un objectif simple, Adam. D'accord. J'aimerais faire un gâteau.
Faire un gâteau. Un gâteau aux pommes ?
C'est ça, un gâteau. Je veux faire un énorme gâteau aux pommes.
Tu le feras avec nos pommes ?
Avec les pommes du jardin.
Excellente idée. Une minute. Tu viens de trouver un objectif ? Tu feras un gâteau. Tu veilleras sur le pommier jusqu'au 1er août. Là, tu cueilleras les pommes et tu feras un gâteau. C'est une très bonne idée. Ça y est.
Les choses ont changé en près de 4 siècles. L'absence de centralité de la pomme dans la tragique histoire d'Hamlet, prince de Danemark, de William Shakespeare, remonte à 1603, date de sa publication. Elle raconte sa tentative de venger l'assassinat de son père par son oncle et beau-père, via une pièce de théâtre, un classique de la littérature anglo-saxonne. La tirade la plus célèbre est sans conteste « To be or not to be, that is the question ». Être ou ne pas être, la question est là, parfois être ou n'être pas. Avec laquelle Hamlet interroge ses petits problèmes existentiels, la vie, la mort, la vengeance, le sens, la justice, etc. Elle est la première phrase du monologue de Hamlet dans la première scène de l'acte 3. La mise en scène classique le montre agenouillé sur une jambe, s'adressant à un crâne qu'il tient dans sa main, face à lui. La symbolique est forte et l'image saisissante. Que d'analyses savantes, d'écrits littéraires, de références et de décortiquage de son sens et de ses implications. Et pourtant, une pomme aurait très bien pu tenir ce rôle. Non pas une représentation idéalisée, mais un peu flétrie, avec un ver dans la pomme. Car est-ce vraiment une façon si pertinente de poser la question ? N'est-ce pas beaucoup de bruit pour rien ? Pour reprendre le titre d'un texte shakespearien.
La vie n'est qu'une ombre errante, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite une heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire racontée par un idiot pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. William Shakespeare, La tragique histoire d'Hamlet, prince de Danemark.
La contribution pommesque à la critique artistique est invisibilisée par les tomates. De la même manière que les stades de foot ont été pacifiés et gentrifiés, le supporterisme radical a été traqué. La pomme est progressivement sortie du monde des arts vivants. Trop dangereuse, trop hooligan. Dans son dictionnaire pittoresque et historique du théâtre, publié en 1885, Arthur Pougin indique que les mœurs du théâtre en ce qui concerne la relation au public avec les acteurs ont singulièrement changé depuis 2 ou 3 siècles et se sont heureusement modifiées. Il fut un temps où les spectateurs très exigeants et peu endurants ne laissaient passer un comédien aucune négligence, aucune faiblesse, même passagère ou involontaire. Les sifflets, les apostrophes blessantes ne tardaient pas à fondre sur le malheureux. Et il arrivait qu'on lui lançait, même sur le théâtre, pour lui marquer le mépris qu'on faisait de lui, des projectiles d'un genre particulier, tels des pommes cuites ou un œuf pourri. Mais aussi orange et tomate. En cette fin du XIXe siècle, Arthur Pougin rapporte l'existence de l'expression « être mauvais » à lui jeter des pommes cuites, pour parler d'un talent médiocre dans le domaine théâtral.
Philosophique.
Peu d'hominines ont placé la pomme au centre de l'histoire, non pas en moteur mais en jalon. Charles Fourier est l'un d'eux. Arrivant à Paris, il constate que le prix d'une seule pomme est celui de 100 en Normandie. J'ai remarqué depuis ce temps qu'on pouvait compter 4 pommes célèbres. 2 par les désastres qu'elles ont causés, celle qu'Ève offrit à Adam et celle que Paris offrit à Vénus. Et 2 par les services rendus à la science, celle de Newton et la mienne. Ce quadrille de pommes célèbres ne mérite-t-il pas une page dans l'histoire ? La théorie des 4 pommes se dessine. La première fait implicitement référence à la mythologie chrestienne de la pomme croquée et de la colère divine que cela provoque. La seconde renvoie à la mythologie grecque antique. Eris, la déesse de la discorde, crée une pomme d'or sur laquelle il est écrit « pour la plus belle ». Paris, simple hominine mortelle, est désigné pour choisir à laquelle des 3 déesses il doit la décerner. chacune ne lui faisant des promesses de lendemain meilleur. En désignant Aphrodite, il froisse terriblement les deux autres. Un choix qui mène à la guerre de Troie. Cette pomme d'or de la discorde est à l'origine de l'expression « pomme de discorde », qui désigne une cause de désaccord qui peut avoir des conséquences plus graves et accessoirement. Elle donne son nom, dans les années 60, à une religion parodique, le discordianisme, qui reprend le symbole de la pomme. Pour les apports positifs de la pomme à l'histoire des hominines, l'épisode de Newton rappelle l'importance de ce fruit dans la théorisation de la gravité. Quant à Charles Fourier, elle lui permet de comprendre les méfaits des intermédiaires dans les processus économiques. Je fus si frappé de cette différence de prix entre pays de même température que je commençais à soupçonner un désordre fondamental dans le mécanisme industriel. Et de là naquirent les recherches qui, au bout de 4 ans, me firent découvrir la théorie des séries de groupes industriels et par la suite les lois du mouvement universel manquées par Newton. Selon l'artiste contemporain Frank Scurti, créateur d'une œuvre d'art en forme de pomme en hommage à Charles Fourier, la quatrième pomme, la sienne, lui révèle la malfaisance des intermédiaires, la féodalité mercantile, l'ampleur de l'imposture commerciale et à la fois le principe de l'attraction des passions humaines que lient les messages de la pomme. Étiquetée socialiste utopique par le bicéphale Marx-Engels, qui se réserve le qualificatif de scientifique, Charles Fourier tente de penser un monde débarrassé des entraves et des illogismes qui perturbent l'harmonie de l'existence et fondent la discorde entre les hominines. « Je ne veux rien », comme il le dit lui-même dans le deuxième tome de sa théorie de l'unité universelle. Attaché aux mythologies christiennes d'une harmonie divine, il fantasme un âge d'or d'avant la maudite pomme évo-adamique.
En harmonie, l'idéal n'est pas de se contrôler, mais de ne renoncer à rien. Non plus se simplifier, de choisir hâtivement une voie étroite, mais être harmonieusement le riche composé qu'annoncent les germes de l'enfance. Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements, partie 1, 1808.
La philosophie est une discipline de l'esprit très exigeante. Le sens des mots est primordial, au risque d'être dans la confusion. Et quoi de mieux qu'une citation en latin ou en grec, non traduite, pour donner du sérieux intellectuel et de la profondeur historique à des propos. En Vogon, ne dit-on pas d'ailleurs « Fripping licious vimbukt avis mungrevit kersib » Appuyer ces raisonnements sur des mythes risque de fausser la dialectique, voire décrédibiliser le propos, d'autant plus lorsqu'il y a une traduction d'une langue à l'autre. La pomme est un bon exemple, car le grec, très étrangement, emploie le même mot pour désigner deux concepts différents, les pommes et les troupeaux de brebis. Le terme « melon » sert donc deux réalités, d'où une ambiguïté qui date d'ailleurs de l'Antiquité et ne découle pas seulement d'un problème de traduction contemporaine. Le mélange sémantique entre animal et végétal est renforcé par l'existence supposée de zoophytes ou plantes animales. Il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que la réalité de l'anus cichistus soit définitivement rejetée. Soit il est un agneau animal qui est la fleur d'une plante et se nourrit en mangeant la végétation alentour, soit elle est une plante dont la sève ou le suc, disait-on, n'est autre que du sang. Au lieu du fruit, elle avait la figure d'un agneau. Elle était couverte d'une peau et d'une toison. Sa chair était excellente et avait le goût de celle de l'écrevisse. Sa racine était faite en forme de nombril. La question peut évidemment paraître anecdotique au XXIe siècle, mais il est important que, pour des glissements de traduction, il n'y ait pas de confusion possible. La pom-pom girl n'est pas une créature hybride entre une hominine femelle et un pommier. De la même façon que parking n'est pas un mot anglais, mais une construction française d'un faux anglicisme, pom-pom girl est devenue l'appellation française pour désigner l'activité sportive du cheerleading. Les francophones d'Amérique du Nord disent la claque. The Pom-Pom Girls est le nom d'un film états-unien de 1976, sorti en France sous le titre de « Lâche-moi les baskets ». Une comédie sexuelle à petit budget et populaire dans les cinémas drive-in états-uniens des années 70 et les salles françaises. Une sorte de American Pie avant l'heure, une des recettes adolescentes de la tarte aux pommes. L'intrigue tourne autour des jeux amoureux, de séduction et de rivalité sexuelle de quelques jeunes hominines mâles de l'équipe de football américain du lycée et le groupe de jeunes hominines femelles qui supportent l'équipe avec leur cheerleading. Ces meneuses de claque s'appellent les pom-pom girls. Le français de France n'en a retenu que cela. La proximité avec le pompon a probablement contribué à ancrer ce mot dans le vocabulaire usuel. Être hybride entre hooliganisme et majorette? That is the question, comme on dit en France, ce pays où nothing se dit rien.
Politique.
Depuis des siècles, les hominines fabriquent des onguents aux vertus médicinales. Le mot pommade rappelle que la pomme a longtemps été un ingrédient de ces crèmes, semi-solides destinées à être appliquées sur les parties du corps. La seconde édition du dictionnaire de l'Académie française donne cette définition. Composition molle et onctueuse, faite avec de la chair de pomme ou de la cire, ou de la graisse de quelques animaux, préparée avec différents ingrédients suivant les divers usages qu'on veut en faire. L'expression « passer la pommade » est donc un acte médical, ou du moins de bien-être. Au sens figuré, elle renvoie à une tentative d'amadouer les hominines, de flatter afin d'en obtenir quelque chose. Cette idée se retrouve dans les expressions « endormir une personne » ou « brosser dans le sens du poil », de façon plus policée de dire « se la faire mettre à l'envers ». La pommade est donc l'acte d'en appliquer est très ancienne. Au-delà de la simple recommandation médicinale, l'usage de la pommade est ritualisé. La religion et la politique sont deux exemples assez significatifs d'une utilisation détournée de son sens premier.
Attesté depuis la fin du XIXe siècle avec le sens de perdre connaissance, s'évanouir, l'expression « tomber dans les pommes » est-elle un héritage de l'écrivain Aurore Georges Sand Dupin, qui utilise « être dans les pommes cuites » ou une déformation de « tomber en pamoison » attestée depuis le XVIIe siècle. Ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne sont confirmées par les étymologistes. Dans une lettre d'avril 1830 à sa génitrice, Georges Sand utilise cette expression pour dire à quel point elle n'est pas au mieux de sa forme physique. Elle est cuite, pour le dire en langage moderne. Elle renvoie à l'idée d'une chose devenue molle. Mais cette hypothèse est fragilisée par l'emploi de cette expression par des hominines des années avant l'apparition des correspondances de l'autrice. Le rapprochement entre la pomme et la pamoison est fait dans les années 1930 par le linguiste Albert Doza. Il propose d'en faire une déformation de « tomber dans des pâmes ». Présent dans le lexique du vocabulaire francophone ancien sous la forme « passemer », le verbe « pâmer » signifie « défaillir ». Il est tout autant possible de se « pâmer de rire » ou « rire à pâmer » face à quelque chose de très drôle que de se « pâmer de douleur » lorsque celle-ci est trop intense. La faiblesse de cette hypothèse étymologique est que l'existence de l'expression « tomber dans des pâmes » n'a jamais été attestée, hormis chez Albert Doza.
En politique, l'ambiguïté est un jeu très populaire. La pomme peut, bien malgré elle, servir les intérêts de telle ou telle idéologie, de tel ou tel discours politique, dont le but principal est, justement, de prendre les hominines pour des pommes. Les études antipommistes disposent de matières intellectuelles et historiques pour nourrir leurs réflexions sur la place réelle du fruit du pommier dans la structuration des sociétés dominines présentes.
Mais la pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Oh, les superbes pommes, ça c'est gentil. Salut. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé.
En France, l'archétype est incarné par Jacques Chirac, un politicien contemporain. Pour justifier son choix de s'accaparer l'imaginaire populaire autour de la pomme et de mettre un pommier sur la couverture de son livre programme et sur ses affiches de campagne électorale en 1995, il affirme dans une interview « J'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. » Un de ses proches rappelle que durant toute la campagne qui a suivi, lors de tous les meetings du candidat, des camions de pommes faisaient le déplacement, suscitant l'inquiétude des services de sécurité qui pensaient que le public pourrait s'en servir contre lui. Une inquiétude fantasmée qui se retrouve déjà dans la vie politique de ce pays au XIXe siècle. « Nous sommes ici contre la volonté du peuple. Nous n'en sortirons que par la force. Des pommes cuites et des œufs frais. » La pomme émeutière fait trembler. Jeter des pommes cuites à quelqu'un signifie d'ailleurs désapprouver ce qu'une personne dit ou fait en public. Selon l'expression du Zour, qui explique que la pomme cuite est rendue molle par la cuisson, comme la tomate, l'œuf, de préférence pourri, elle constitue un projectile inoffensif mais infamant. La responsabilité incombe-t-elle aux pommes ou aux hominines qui en font des projectiles? En posséder constitue-t-il un délit? Une question qui divise toujours les courants politiques actuels. Faut-il craindre une nouvelle grande conspiration des pommes cuites comme celle de 1796? Avec toutes les recettes de tarte aux pommes disponibles, quel est le risque qu'elle remplace la chantilly dans les entartages de personnalités politiques ou médiatiques ? Cette utilisation de la pomme interroge aussi la radicalité politique contestataire. Vaut-il mieux une pomme d'arbre au visage qu'une paume de main sur la joue ?
Impossible de confirmer que la victoire de Jacques Chirac aux élections présidentielles de 1995 soit due à sa stratégie de communication autour des pommes. En guise de slogan rassembleur, ses caricaturistes officiels lui font répéter en boucle « manger des pommes ». Et au fil des interviews et de ses apparitions publiques, le candidat ne cesse d'en faire des caisses. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Se présentant comme un bon vivant, grand amateur de plaisir de la table, le futur président français connaît très bien son sujet. À l'image du monde politique, il aime « se payer la pomme » des hominines qui votent pour lui. Car selon ses propres mots, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Comme l'ensemble du monde politique, il défend l'usage de la pomme dans la présentation du porcelet cuit à la broche. Glissée dans sa bouche après cuisson, purement décorative, elle n'a d'autre but que de lui ôter cet air désolé d'être là et à lui donner une apparence plus joyeuse.
En somme, mon but n'étant pas de renverser ce qui est, mais de m'élever au-dessus de lui, mes intentions et mes actes n'ont rien de politique ni de social. N'ayant d'autre objet que moi et mon individualité, ils sont égoïstes. La révolution ordonne d'instituer, d'instaurer. L'insurrection veut qu'on se soulève ou qu'on s'élève. Max Stirner, L'unique et sa propriété, 1845.
Outil de simplification extrême, la politique utilise généralement des raisonnements basés sur la corrélation plutôt que la causalité. Ce qui fonctionne avec la pomme fonctionne tout aussi bien avec n'importe quoi, car elle n'est qu'un prétexte à justifier des présupposés. Un saupoudrage de jargon est conseillé pour faciliter les digestions difficiles. Les chiffres et les graphiques servent à mettre en forme et donner de la crédibilité à ce qui n'en a pas. Angoisses existentielles et approches mathématiques font bon ménage, comme le montre très bien une interview réalisée récemment par des analystes complotismistes. J'ai peur pour 2025, car 2 fois 2 fois 5 égale 20. Et que si pour une raison quelconque, on divise cela par 10, cela donne exactement le nombre de tétons qu'avait Adolf Hitler. Pour reprendre les thèmes classiques des argumentaires politiques fallacieux, il est possible de faire des corrélations entre d'une part la production mondiale de pommes et de l'autre, l'immigration, le dérèglement climatique, la baisse du pouvoir d'achat, le taux de mortalité infantile, la situation dans les EHPAD, la maltraitance des animaux domestiques, l'augmentation des divorces. Pour rester dans la thématique des pommes, une telle démarche de corrélation fonctionne aussi, pour ne citer que quelques exemples, avec le nombre cumulé des recherches Jean-Claude Van Damme sur Google ou celui des visites de l'encyclopédie Wikimedia.
Historique.
L'imaginaire actuel autour de la Normandie, région natale d'Albertine Autain, située au nord-ouest de la France, en fait la reine de la pomme. Les représentations de paysages de vaches et de vergers de pommiers font partie des incontournables. La multitude de variétés de pommes sont mangées, cuisinées, crues ou cuites, ou alcoolisées, cidre, calva et autres pommées. Elles sont utilisées par les hominines pour elles-mêmes et les autres espèces domestiques. À la fin du XIXe, les confiseurs normands utilisaient certaines variétés particulières comme la cavaille blanche pour fabriquer le célèbre sucre de pomme de Rouen et la gelée de pomme. Encore vivantes ou mises à mort, peu importe, les pommes sont broyées, mélangées, cuites, coupées, pelées, noyées dans de la mélasse, ébouillantes avec du caramel, écartelées, ingurgitées, déféquées. Le témoignage d'une ancienne pomme de la classe ouvrière Vauparadis est éloquent.
Le cerveau, c'est la direction centrale. Il décide, il fait des projets, il programme, il met en route la production.
Ah, quelle production ?
Et l'homme, lui, il entre en piste. Il se met en mouvement. Les bras, les jambes, la bouche, les yeux, la langue, tout se met en mouvement. Il fonctionne. Il attrape la nourriture qui est la matière première.
Oh, qu'est-ce que tu racontes ?
Ouais. L'homme travaille pour manger.
Une belle découverte, oui.
La nourriture, elle descend, et là, il y a une machine qui concasse. Et c'est prêt à ressortir. C'est comme une usine.
Oui.
Je te dis que l'homme est pareil à une usine.
Oui, alors ?
Une fabrique de merde.
Les variétés sont créées pour répondre à la diversité des usages possibles de ce fruit. Même si à partir du XVIe siècle, la poire a les faveurs de l'aristocratie qui y voit un fruit délicat, en opposition à la pomme perçue comme un fruit paysan. Les modes de production et les ajustements commerciaux ont modelé le paysage normand pendant des siècles. Depuis le début du XXe, la Normandie a perdu son statut de pays de la pomme. Centrée sur les pommes à cidre, sa production de pommes à couteau a chuté pour se faire dans d'autres régions françaises. Sur la centaine de variétés normandes recensées, il existe des associations qui cherchent à préserver et promouvoir les anciennes, aujourd'hui disparues ou rares. La Normandie représente maintenant un petit pourcentage de la production nationale. Les principales régions productrices sont la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Pays de la Loire, Émilie-Pyrénées.
Dans la région, on est surtout fort en pommes.
Fort en pommes ?
Fort en pommes ?
Oui, oui, fort en pommes, on est fort en pommes.
Fort en pommes ?
Fort en pommes ?
Oui, on est fort en pommes.
Des recherches sont encore à mener afin de déterminer quels étaient les types de pommiers présents autour de Hermenon-sur-Buchy lorsque Albertine Autin y grandit dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ses parents exploitaient-ils des vergers ? Quels étaient les usages de ce fruit ? Ses préférences ? Ses recettes préférées ? Il ne s'agit évidemment pas de se demander si, oui ou non, Albertine Autin et F. Merjanov ont pu se lécher la pomme. S'embrasser, pour le dire moins poétiquement. Cela n'a aucun sens. Mais il est difficile de ne pas remarquer qu'il fallut attendre la mort de l'une en 1906 pour que l'autre naisse en 1970. Et que la baisse progressive de la production de pommes en Normandie depuis cette époque a très largement bénéficié ultérieurement à d'autres régions, dont celle de naissance de F. Merjanov. Inutile de nier que la corrélation entre l'augmentation de la production mondiale de pommes et la chute de la population de Macédoine saute aux yeux. Un vaste chantier de recherche intersectionnelle que la protivophilie n'a pas le temps d'explorer malgré les liens entre Macédoine et F. Merjanov.
La rencontre chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires,
pommes
et des scooby-dooby-doo, ah, des scooby-dooby-doo, ah.
La mariée est ravissante.
Ah, des scooby-dooby-doo. On a dansé toute la nuit. Mis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour.
Scooby-doo.
Itou, itou.
Viens-t'en!
Rendez-moi chez vous!
Tout sur rien, c'est sur Radio Qui Pique. Le mercredi à 12h et le dimanche à 19h.